populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Chapitre 1. Christophe Colomb, les Indiens et le progrès de l'humanité.
Troisième partie.
Lorsque les pères pèlerins arrivèrent en Nouvelle-Angleterre, ils ne trouvèrent pas eux non plus une terre déserte, mais une contrée peuplée d'Indiens. John Winthrop, le gouverneur de la colonie de la baie du Massachusetts, prétexta pour justifier son occupation des territoires indiens que la terre était juridiquement vacante. Les Indiens, prétendait-il, n'avaient pas soumis la terre et en conséquence n'avaient qu'un droit naturel sur elle et non un droit réel. Et le droit naturel n'avait aucune existence légale. Les puritains respectaient une trêve toute relative avec les Pequots, qui occupaient ce qui constitue aujourd'hui le sud du Connecticut et du Rhode Island. Ils ne souhaitaient pas moins s'en débarrasser et occuper leurs terres. En outre, ils semblaient bien décidés à imposer leur domination sur les colons de cette région du Connecticut. En 1636, le meurtre d'un négociant blanc, fauteur de troubles et kidnappeur d'Indiens avérés, fournit une excuse excellente au déclenchement d'une guerre contre les Pequots. Une expédition punitive quitta Boston pour attaquer les Indiens Narragansetts de Block Island que l'on prenait pour des Pequots. Les Anglais débarquèrent sur Block Island et tuèrent en effet quelques Indiens, mais les autres se réfugièrent dans les forêts et les troupes anglaises allèrent d'un village déserté à l'autre, détruisant les récoltes. Puis, ils retournèrent sur le continent et pillèrent les villages Pequots installés sur la côte, en détruisant là aussi les récoltes. L'un des officiers de cette expédition décrit les Indiens Pequots qu'il rencontrait en ces termes. Les Indiens qui nous observaient accouraient en nombre sur le rivage en criant « Bienvenue, Anglais, bienvenue, que venez-vous faire ici ?» Ils n'imaginaient pas que nous étions en guerre et nous accueillaient chaleureusement. C'est ainsi que commença la guerre contre les Pequots. On massacra des deux côtés. Les Anglais mirent en place une stratégie déjà utilisée par Cortés et largement reprise plus tard au XXe siècle. Agression délibérée sur les populations civiles dans l'objectif de terroriser l'ennemi. Les Anglais mirent donc le feu aux wigwams du village. La guerre se poursuivait. Les tribus indiennes, dressées les unes contre les autres, ne semblèrent jamais en mesure de s'unir pour combattre les Anglais. 40 ans après la guerre contre les Pequots, les Puritains et les Indiens recommencèrent à s'affronter. Cette fois-ci, c'était au tour des Wampanoags, sur la rive sud de la baie du Massachusetts, de se trouver en travers du chemin. Ces Indiens commençaient en outre à vendre quelques-unes de leurs terres à des individus n'appartenant pas à la colonie de la baie du Massachusetts. Leur chef, Massasoit, était mort et son fils, Wamsutta, avait été tué par les Anglais. Le frère de Wamsutta, Metacom, que les Anglais allaient surnommer plus tard le roi Philippe, devint chef à son tour. Les Anglais trouvèrent un prétexte, un meurtre qu'ils attribuèrent à Metacom lui-même, pour entamer une guerre de conquête contre les Wampanoags. Il s'agissait bien sûr de se saisir de leurs terres. Les Anglais étaient clairement les agresseurs, mais ils prétendaient agir pour prévenir des agressions futures. Jennings affirme que cette guerre répondait avant tout au désir des élites puritaines. L'Anglais plus modeste n'en voulait pas et refusait bien souvent de combattre. On peut être certain que les Indiens ne la souhaitaient pas non plus, mais répondaient au massacre par le massacre. lorsque tout fut fini, en 1676, les Anglais l'emportaient, mais ils avaient payé bien cher de leur victoire. Quelques 600 blancs avaient perdu la vie, et 3000 Indiens étaient également morts, dont Metacom lui-même. Pourtant, les raids indiens se poursuivirent. Pendant quelque temps, les Anglais usèrent de stratégies moins violentes, puis en revinrent finalement à l'extermination. La population indienne qui vivait au nord du Mexique à l'arrivée de Christophe Colomb et qui comptait une dizaine de millions d'individus fut finalement réduite à moins d'un million. Un nombre incalculable d'Indiens furent victimes de maladies introduites par les Blancs. Un Hollandais parcourant la Nouvelle-Hollande écrit en 1656 que « Les Indiens affirment qu'avant l'arrivée des chrétiens et avant que la variole ne se propage chez eux, ils étaient 10 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Cette maladie a anéanti leur population, dont les 9/10 ont disparu. En 1642, lorsque les Anglais s'installèrent pour la première fois à Martha's Vineyard, les Wampanoags qui y vivaient étaient peut-être au nombre de 3000. Cette île ne connut pas la guerre, mais en 1764, on y comptait plus que 313 Indiens. De même, en 1662, la population indienne de Block Island se montait à environ 1200 ou 1500 individus. En 1774, il n'était plus que 51. L'invasion de l'Amérique du Nord par les Anglais, leur brutalité et les massacres d'Indiens trouvaient leurs origines dans cette force impérieuse, caractéristique des civilisations fondées sur la propriété privée. Une force moralement ambiguë. Pour les Européens, le besoin d'espace et de terre était bien réel. Mais dans une telle situation de nécessité et dans cette période barbare obsédée par l'idée de compétition, ce besoin parfaitement humain tourna au massacre généralisé. Ces bains de sang et cette duplicité que l'on observe de Christophe Colomb à Cortés, de Pizarro aux Puritains, étaient-ils réellement nécessaires pour permettre à l'humanité de passer de l'état sauvage à la civilisation ? Qu'ont apporté au peuple espagnol toutes ces morts et ces violences infligées aux Indiens des Amériques? La gloire, éphémère à l'échelle de l'histoire humaine, de l'Empire espagnol dans l'hémisphère occidental. Comme le dit assez bien Hans Koenig dans son livre « Columbus, His Enterprise », tout l'or et tout l'argent volé et embarqué à destination de l'Espagne ne rendirent pas le peuple espagnol plus riche. Cela conféra à ses rois, et pour un temps seulement, un certain poids dans l'équilibre des pouvoirs et la possibilité de s'offrir plus de mercenaires afin de mener leur guerre. Ces guerres qu'ils finirent tout de même par perdre. Tout ce qui en résulta fut une inflation mortelle, une population affamée, des riches plus riches, des pauvres plus pauvres et une classe paysanne complètement ruinée. Mais par-dessus tout, peut-on vraiment affirmer que ce qui a été détruit était inférieur ? Qui étaient ces gens qui se réunirent sur le rivage et nagèrent jusqu'à Christophe Colomb pour lui apporter, à lui et à son équipage, des présents? Ceux qui regardèrent Cortés et Pizarro traverser leurs terres? Ceux qui observèrent de la lisière de la forêt les premiers colons blancs de Virginie et du Massachusetts? Colomb les baptisa « Indiens » parce qu'ils n'avaient pas su évaluer la taille réelle du globe. Dans ce livre, nous conserverons malgré tout cette désignation, parce qu'il arrive bien souvent que les peuples s'accoutument aux noms que leur ont donné leurs conquérants. En outre, une autre raison nous autorise à les nommer ainsi. Ces peuples sont en effet venus d'Asie. Il y a sans doute environ 25 000 ans, après avoir traversé le détroit de Bering par une bande de terre qui devait les conduire en Alaska et fut plus tard recouverte par les eaux. Se déplaçant ensuite vers le sud à la recherche d'un climat plus chaud et de nouvelles terres, en un périple qui dura plusieurs milliers d'années. Ils parvinrent jusqu'en Amérique du Nord, puis en Amérique centrale et enfin en Amérique du Sud. Au Nicaragua, au Brésil et en Équateur, Leurs traces de pas inscrites dans le sol peuvent encore s'observer, parmi celles des bisons qui ont disparu de ces régions il y a quelques 5000 ans. C'est pourquoi on peut affirmer que les Indiens ont atteint l'Amérique du Sud au plus tard à cette période. Largement dispersés sur ces immenses continents que sont les Amériques, ils devaient être à peu près 75 millions à l'époque de l'arrivée de Colomb, dont 25 millions environ en Amérique du Nord. Ces peuples développèrent des centaines de cultures spécifiques répondant aux différents environnements naturels et climatiques et parlaient environ 2000 langues différentes. Ils poussèrent assez loin l'art de l'agriculture et imaginèrent les moyens de cultiver le maïs, plante dont la domestication à des fins alimentaires nécessite une technique particulièrement élaborée. Les Indiens avaient aussi développé d'autres variétés de légumes et de fruits, ainsi que la cacahuète, le cacao, le tabac et le caoutchouc. En fait, les Indiens venaient de s'engager dans le même type de révolution agricole radicale que d'autres peuples d'Asie, d'Afrique et d'Europe expérimentaient à la même époque. Alors que certaines tribus conservaient leur mode de vie nomade de chasseurs-cueilleurs, d'autres commençaient à s'installer en communautés plus sédentaires où l'on trouvait plus de nourriture, des populations plus nombreuses, une division du travail plus nette entre hommes et femmes, des surplus destinés aux chefs et aux prêtres, et également plus de temps libre pour s'adonner à des activités sociales et artistiques ou pour construire des habitations. 1000 ans avant Jésus-Christ, par exemple, en même temps que les Égyptiens et les Mésopotamiens, les Indiens Tsunis et Hopis, sur le territoire de ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique, avaient commencé à construire des villages en terrasses, comptant des centaines d'habitations, nichées sur des falaises ou dans des montagnes afin de mieux se protéger des ennemis. Avant l'arrivée des explorateurs européens, ils utilisaient des réseaux d'irrigation et des retenues d'eau, connaissaient la céramique, la vannerie et se tissaient des vêtements en coton.
Y avait-il effectivement 3 millions d'Indiens? Ou moins d'un million, selon certains historiens? Ou 8 millions, selon certains autres? Pourtant, à en croire les manuels d'histoire fournis aux élèves américains, tout commence par une épopée héroïque. Nulle mention des bains de sang. Et nous célébrons, aujourd'hui encore, le Columbus Day.
Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours.
Par Howard Zinn.